Voilà, nous allons aborder la psychologie transpersonnelle. La psychologie transpersonnelle est née au tout début des années 70 et se situe dans l'idéologie du New Age, nébuleuse prétendant changer les représentations habituelles du monde grâce à un syncrétisme pseudo-scientifique et un mélange des différentes traditions spirituelles. Ces courants sont nés sur la côte ouest des États-Unis et notamment à Esalen, épicentre du New Age. Abraham Maslow, cofondateur de la psychologie humaniste, et Stanislav Grof, fondateur de la respiration holotropique avec son épouse professeure de yoga, en sont les fondateurs et les maîtres à penser. Ils se recommandent tous les deux de Carl Gustav Jung. Maslow est à l'origine de la psychologie humaniste et dans laquelle s'inscrit aussi Carl Rogers. C'est un psychologue américain considéré comme le père de l'approche humaniste avec Grof et de la psychologie transpersonnelle. Son influence sur le monde des psychologues vient en partie de son explication sur la motivation par la hiérarchie des besoins, qu'on appelle aussi pyramide de Maslow, représentée donc sous la forme d'une pyramide qui, de la base au sommet, distingue cinq niveaux de besoins. Le premier niveau, à la base, sont les besoins physiologiques, tels que la faim et la soif. Ensuite, les besoins de sécurité et de protection, tels que le désir d'un toit ou d'une bonne assurance. Ces deux aspects assurent la survivance physique d'une personne. Ensuite, il y a les besoins d'appartenance, besoins sociaux qui reflètent la volonté de faire partie d'une famille, d'un groupe ou d'une tribu. Ensuite arrivent les besoins d'estime de soi qui permettent de se regarder dans le miroir le matin. Enfin apparaissent au sommet de la hiérarchie les besoins de s'accomplir. Cette pyramide de Maslow a été référente dans beaucoup de perspective de nouvelle psychologie, pyramide des besoins, qui est en fait dynamique. Là, elle est extrêmement résumée, hein, elle est plus élaborée que ça chez Maslow. Alors, dans la respiration, nous avons parlé de la respiration aussi holotropique que Stanislav Grof a fondée avec son épouse qui était professeure de yoga. Dans cette respiration holotropique, la conscience est modifiée en associant une respiration rapide. On va retrouver ça dans le rebirth, hein, qui veut dire renaissance en anglais. Donc, ça s'accompagne, cette respiration ultra rapide, par une musique non modale. Vous voyez, les musiques non modales, c'est les musiques qui sont planantes. On va retrouver ça dans la musique, par exemple, du Grand Bleu. Hein, voilà. Cette musique qui n'est pas modale, quoi, qui est très indifférenciée, qui fait finalement planer. On va retrouver ça aussi dans beaucoup de musiques psychédéliques, un peu, vous voyez, voilà. Donc, cette respiration holotropique est aussi un travail sur le corps visant à éliminer les blocages énergétiques. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Stanislav Grof et son épouse, et donc de cette respiration holotropique. Grof définit la psychologie transpersonnelle comme une discipline visant à faire une synthèse de la spiritualité authentique et de la science. En France, la tradition laïciste, suspicieuse à l'égard de toute approche spirituelle, n'a pas permis à la psychologie transpersonnelle de pénétrer les universités. Et ici, l'on ne doit pas s'en plaindre pour une fois. La psychologie transpersonnelle ne bénéficie d'aucun encadrement institutionnel et son efficacité n'a jamais été démontrée. La Miviludes a, dans son rapport de 2013, dénoncé les dérives provoquées par cette approche. Alors nous allons aborder l'historique de cette psychologie transpersonnelle. Carl Gustav Jung a en apparence intégré la spiritualité dans ses analyses psychologiques. Jung est très référent dans ces milieux qui voulaient mêler psychologie et vie spirituelle. Donc Jung a intégré la spiritualité dans ses analyses psychologiques, contrairement à Freud qui faisait de la vie spirituelle une sorte de névrose, voire de psychose. De plus, avec son concept d'archétype, Jung dépassait la notion du moi. Et avec celle de synchronicité, il ouvrait un autre champ à la notion de causalité. C'est-à-dire que la synchronicité était une approche de Jung qui faisait que les éléments pouvaient apparaître en même temps à différents lieux, indépendamment d'une perspective d'histoire psychologique personnelle, et notamment aussi la notion de causalité. Donc, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans certaines pathologies la notion de cause, eh bien, cette causalité va être en tout cas mise de côté par des approches de type jungien, qui se veulent beaucoup plus globales, beaucoup plus spiritualisantes, mais qui frisent parfois précisément à la médiumnité. Nous avons fait un petit topo sur l'inconscient spirituel chez Freud, Jung, en relation avec la tradition patristique que l'on peut retrouver sur le site PEDCDS 72. En 1971, Stanislav Grof est un psychiatre tchécoslovaque vivant aux États-Unis depuis 1967. Il fonde l'International Transpersonal Association et devient professeur à l'Institut Iselin de Big Sur en Californie de 1973 à 1987. Il travaille sur les états non ordinaires de conscience, notamment en faisant prendre à des cobayes étudiants du LSD et autres drogues pour observer leurs effets sur les modifications des états de conscience. Il y a un certain nombre de groupes, hein, Grateful Dead, etc., hein, à cette époque-là, qui ont été dans ces logiques, hein, de prendre des LSD et de faire des musiques tout à fait particulières. Hein, et on voit ça dans le film Woodstock. Hein, il y a un certain nombre de groupes de musique qui étaient complètement immergés dans cette perspective-là, avec comme maître à penser, notamment Grof, on va revoir ça tout à l'heure. La journaliste papesse du New Age, Marilyn Ferguson, convaincue par la pertinence de la psychologie transpersonnelle, écrira dans Les Enfants d'Iverso, The Aquarian Conspiracy, livre qui aura un succès phénoménal sur toute la planète. Elle y magnifie la psychologie transpersonnelle, ayant auparavant dans son livre La Révolution du Cerveau, en 1973, abordé les états altérés de conscience, le super-cerveau, et la conscience et l'hyperconscience. L'école transpersonnelle se présente comme la quatrième école, parfois appelée quatrième force en psychologie, dépassant les théories comportementales et positivistes de la première école, on appelle aussi le behaviorisme, la psychanalyse de la deuxième école, la psychologie humaniste étant la troisième école. Ainsi, pour Carl Rogers, de cette tradition donc, de psychologie humaniste, l'être humain est fondamentalement bon. Il évolue toujours positivement s'il suit sa propre expérience et se débarrasse des conditionnements qui limitent sa liberté. Il s'agit pour le thérapeute de confirmer ce que ressent son patient. Les notions de psychopathologie ou de bien et de mal disparaissent. Cette psychologie de Carl Rogers, le personnalisme de Carl Rogers, quand je faisais des études de psychologie en 74, 75, 76, était le maître à penser, hein, de tous un courant de psychologie qui se voulait être bienveillante, confirmante à l'égard de toutes les expériences. Enfin, pour l'école transpersonnelle, l'état transpersonnel est atteint lorsqu'une personne dépasse de façon permanente son petit moi individuel ou égo pour s'unir à l'absolu non personnel, qui peut rejoindre la déité de Maître Eckhart, le soi que l'on va retrouver dans les spiritualités qui nous viennent de l'Orient, la bouddhéité ou la conscience cosmique. Ainsi, Maslow déclare: je considère la troisième école de psychologie, la psychologie humaniste, comme transitoire, comme une préparation pour une quatrième école psychologique encore plus haute, transpersonnelle, transhumaine, centrée sur le cosmos plutôt que sur les besoins et les intérêts humains, allant au-delà du fait humain, de l'identité, de la réalisation de soi et de toute chose de cette nature. Donc on aborde avec Maslow cette perspective de psychologie transpersonnelle qui se voudrait au-delà de toute perspective de psychologie classique jusque-là élaborée. C'est dans cette même veine d'exploration de tous les champs de conscience qu'en 1968, Carlos Castaneda, très en vogue dans les milieux hippies et dans la culture underground nord-américaine, relayée en France par le mensuel Actuel, publie sa thèse sur la consommation du peyote en milieu amérindien. La traduction française de son livre, c'est « L'arbre du diable et la petite fumée ». La description qu'il y fait de sa rencontre avec un chaman et sorcier yaki n'est que pure invention. Les livres de Castaneda ont été traduits en français. Il terminera sa vie dans la paranoïa, se cachant de tout et vivant dans l'isolement. Mais ce Carlos Castaneda est aussi très référent dans ces milieux-là, de psychologie transpersonnelle. Aujourd'hui, bien des personnes fréquentant le néo-chamanisme se recommandent des travaux de Stanislas Grof. Grof s'inscrit également dans les mêmes perspectives que Timothy Leary, qui dans son livre « La politique de l'extase » s'extasiait sur les bienfaits du LSD et autres substances hallucinogènes pour élargir, selon lui, les champs de la conscience. C'était donc cette période hippie où il était de bon ton d'explorer tous les possibles. Allen Ginsberg, qui a écrit Sur la route, Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur du monde, on le connaît très particulièrement pour son livre Le Meilleur des mondes, mais il a écrit aussi d'autres bouquins, notamment Les portes de la perception, où il décrit précisément ses expériences sous LSD. Et John Lennon, mais de multiples autres à cette époque, font ces expériences de psychédéliques, on parlait de psychédélisme, et donc d'exploration de tous les champs de conscience. Ils étaient donc avec Aldous Huxley, John Lennon, Alan Ziegler, étaient avec Leary et Grof, les chantres de cette prétendue liberté de conscience et de son expansion par tous les moyens. Ces chefs de file parlaient non pas d'expériences psychologiques, mais d'expériences spirituelles. Ils comparaient leurs expériences provoquées par leur drogue à des expériences mystiques telles que peuvent en avoir des praticiens de techniques yogi ou de méditation orientale ou encore de rituels chamaniques. Ces drogues sont appelées aujourd'hui substances entéogènes, de théos, Dieu, en en à l'intérieur, donc c'est-à-dire ces drogues censées engendrer l'expérience de Dieu en soi. Deux médecins français ont entre autres pris le relais de ces perspectives-là, le docteur Mabit et le docteur Mouret, en organisant des voyages d'initiation chamanique. C'est toujours d'actualité et on peut retrouver sur le site Psychothérapie Vigilance une documentation particulièrement éclairée autour de ces questions. Le transpersonnel est décrit comme une expérience et comme une expérience de type spirituel. L'expérience transpersonnelle permettrait d'accéder ou d'intégrer des états de conscience dépassant le moi, l'espace, le temps et la causalité. Par changement d'identification du sujet, le sujet se désindividualise et s'identifie momentanément à d'autres réalités que son ancien moi. Il fait éclater son moi d'une certaine manière. Il s'agit de ressentis dépassant la conscience ordinaire. Vision archétypale. La notion d'archétype est chère à Jung, les archétypes étant des sortes de symboles ou de symboles, mais globaux, de symboles appartenant donc à une culture particulière et qui peut être rentré en correspondance avec d'autres cultures. Donc les archétypes. Voilà. Identification à des animaux. Là, on retrouve le chamanisme. Vous savez, comme dans l'expérience chamanique, quelqu'un peut s'identifier à un animal, un condor ou un animal, un jaguar, etc. Ou même des objets. Donc, on peut faire aussi par ces expériences-là un souvenir de vie antérieure, soi-disant, bien entendu. Souvenir de la naissance, précognition. De fait, magnétisme et médiumnité sont les deux mamelles de cette psychologie transpersonnelle. Cette psychologie souscrit à toutes les formes d'occultisme et de chamanisme sous couvert d'une approche qui se voudrait descriptive et scientifique. De plus, très souvent, ces expériences sont induites par des drogues, peyote, datura, ayahuasca, amanite, LSD, kétamine, cannabis, etc. ou par des techniques psychospirituelles, méditation, respiration, yoga, holotropique, certaines méthodes aussi de sophrologie ou d'hypnose. Voici quelques morceaux choisis de Stanislas Grof dans son livre Psychologie transpersonnelle, une approche globale et spirituelle pour épanouir sa conscience. On va retrouver ça dans la collection J'ai lu de septembre 2009. De nombreux scientifiques et professionnels, dit-il, de santé mentale ont pris conscience du fait qu'il existe un fossé insondable entre la psychologie et la psychiatrie contemporaine et les grandes traditions spirituelles antiques ou orientales. Citons parmi celles-ci les diverses formes de yoga, le taoïsme, le bouddhisme zen, le soufisme, la kabbale ou l'alchimie. Vous voyez, tout y passe. La richesse de connaissances profondes de la psyché et de la connaissance et de la conscience humaine, accumulée par ces systèmes depuis des siècles, voire des millénaires, n'a été ni appréciée à sa juste valeur, ni étudiée, ni intégrée par la science occidentale. On retrouve ça dans le livre de Gross, Psychologie transpersonnelle, page 20. Pour Grof, Leary ou Huxley, et bien d'autres penseurs de cette lignée, les religions instituées ont toujours cherché à réduire les capacités des hommes en limitant leur expérience pour mieux asseoir leur pouvoir. Et voici encore ce que dit Grof. Les expériences recourant à l'hypnose, à l'isolation ou à la surcharge sensorielle, au contrôle volontaire des états internes, biofeedback et à l'acupuncture ont éclairé d'un jour nouveau nombre de pratiques antiques et orientales, mais elles ont engendré plus de problèmes qu'elles n'ont apporté de réponses satisfaisantes. La recherche psychédélique a clarifié d'une certaine manière de nombreuses données historiques et anthropologiques jusqu'alors troublantes concernant le chamanisme, les cultes à mystère, les rites de passage, les cérémonies de guérison et les phénomènes paranormaux résultant de l'emploi de plantes sacrées comme la ayahuasca. L'expérimentation à l'aide de drogues psychédéliques a ébranlé la compréhension conventionnelle de la psychothérapie, les modèles traditionnels de la psyché, la représentation de la nature humaine, ainsi que des convictions essentielles quant à la nature de la réalité. La science des substances hallucinogènes, et là c'est moi qui le dis, ou un certain travail sur le corps permettrait enfin de découvrir les mystères de la nature, point d'exclamation. Et voici ce que dit Grof dans une interview qu'il a donnée sur le site www.psychologie.com. La psychologie sera transpersonnelle, en est le titre de cet article, de cette interview. Stanislav Grof explique que ce qui s'est passé pour moi a transformé ma vie. Après avoir pris une dose infime de LSD, j'ai vu une lumière extraordinaire. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était exactement dans cette lumière indicible décrite dans les livres des morts tibétains que nous sommes censés voir lors de notre départ vers l'au-delà. Tout à coup, je me suis senti propulsé hors de mon corps, comme si ma conscience filait droit dans le cosmos, traversant galaxies et trous noirs, en s'élargissant toujours plus. J'avais l'impression de devenir un avec tout ce qui existe, d'être dans l'univers physique. J'ai ressenti des émotions d'une puissance que je n'aurais jamais pu concevoir. Ma conscience est ensuite comme rétrécie et a tourné autour de mon corps avant de le réintégrer. C'est ainsi que Grof, multipliant les expériences et les reliant à des traditions spirituelles multiples, a cherché une convergence cohérente entre toutes ces approches et les a intégrées dans la psychologie transpersonnelle, pensant ainsi trouver une cohérence entre tous les états mystiques. Cependant, dans la tradition catholique, aucune expérience mystique ne peut être provoquée, si ce n'est par le prince de l'illusion. C'est l'objet même du combat spirituel que de ne pas se laisser berner par celui qui prétend que vos yeux se déciront et vous serez comme des dieux. Genèse chapitre 3, verset 5. Grof poursuit. Avec mon épouse Christina, nous avons mis au point la respiration holotropique, une technique spécifique d'hyperventilation qui, avec un protocole très précis, permet de voyager dans l'inconscient et au-delà. C'est là que j'ai eu la confirmation d'une intuition que j'avais eue pendant ma première expérience personnelle. Notre conscience, notre esprit si vous préférez, n'est pas localisé dans le cerveau. Et de conclure, la psychologie du XXIe siècle sera transpersonnelle parce qu'elle participe à la transformation de la conscience planétaire. Nous sommes là dans toute l'idéologie du New Age. L'expérience spirituelle dans la tradition chrétienne. L'expérience de Dieu dans la tradition judéo-chrétienne ne peut être induite. Dieu se révèle aux hommes de manière inattendue. Au contraire, ce qui provoque des états modifiés de conscience, comme les prophètes de Baal, c'est décrit dans l'Ancien Testament, les prophètes de Baal sont combattus par des prophètes comme Élie. Élie, comme tous les prophètes, est conduit par l'Esprit Saint et n'a d'autre moyen que sa confiance absolue en son Dieu qui intervient au bon et juste moment. Toute l'histoire sainte de la Bible décrit une relation inimaginable où la tendresse de Dieu créateur et sauveur se manifeste en respectant notre liberté. Tout le reste est idolâtrie et illusion. L'expérience spirituelle est une prise de conscience progressive de l'amour infini de Dieu pour les hommes. En Jésus, le Fils unique de Dieu, chacun ou chacune peut devenir par grâce fils ou fille de Dieu sous l'action de l'Esprit Saint. Il ne s'agit jamais, comme dans les descriptions de Grof, d'états modifiés de conscience que l'on pourrait provoquer à loisir. Ces expériences sont d'ordre purement psychologique, le psychique étant sous l'emprise artificielle de drogues ou de techniques psychospirituelles ou psychocorporelles. D'ailleurs, ces expériences décrites dans la psychologie transpersonnelle semblent permettre d'échapper au temps et à l'espace. Grof le dit lui-même. Il y a là comme un mystère de désincarnation, alors que les chrétiens sont invités à contempler et à méditer le mystère de l'incarnation. Tout Dieu qu'il est, le Christ se fait homme et on accepte toutes les limites et les contingences. Alors il est souvent aussi fait appel à la notion de physique quantique. Alors là je suis référent à deux chercheurs du CNRS absolument remarquables que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors du congrès du GMP à Marseille en octobre dernier et qui nous a fait une analyse tout à fait intéressante sur ce qu'est la physique quantique récupérée aujourd'hui par toutes ces méthodes pseudo-scientifiques parce qu'elles ne sont scientifiques que vraiment pseudo, hein, c'est-à-dire qu'elles prennent des termes qui appartiennent effectivement à la physique quantique, mais ce sont deux champs totalement différent, et c'est véritablement de la supercherie de faire s'entrecroiser les domaines de la médecine et ou de la psychologie avec cette physique quantique. Donc ces deux chercheurs absolument remarquables sont Bertrand Jordan, directeur de recherche au CNRS, biologiste moléculaire, docteur de physique des particules, et de Christophe Delaroche-Saint-André, chercheur au CNRS lui-même, et qui ont fait un exposé sur la médecine quantique, approche innovante ou imposture, mésusage des termes, bioénergie quantique. Donc vous pouvez retrouver ça sur le site du GEMP. L'appel à la physique quantique est un grand classique de ces conceptions mystico-psychiques pour tenter de donner un vernis scientifique à ces élucubrations. La physique quantique a un domaine propre et le mélange de la psyché avec celui-ci ne fait qu'ajouter à la confusion car ils n'ont strictement rien à voir. La confusion est double ici entre psychologique et spirituel, entre physique et psychologique. Cela n'empêche en rien Grof de prétendre. On remarque avec intérêt que nombre de physicien moderne, familier de la physique quantique relativiste, montre en général un intérêt de plus en plus grand pour les phénomènes paranormaux, contrairement à la majorité des psychiatres et des psychologues traditionnels. Il convient également de mentionner, à cet égard, les données fascinantes revenant du champ de la thanatologie, c'est-à-dire de cette approche des personnes qui vont mourir, qui suggère que des individus décédés, sur le plan clinique, reçoivent souvent avec précision les événements se déroulant à leur proximité, et ce, d'une position qui ne leur serait pas accessible dans un état conscient. On a tous les livres du père du docteur Moody derrière ça, et il y a toute une littérature dont tu avais parlé, je crois, à un moment. Psychologie périnatale et psychologie transpersonnelle. Alors ça nous intéresse plus particulièrement parce qu'on va voir combien cette psychologie périnatale et psychologie transpersonnelle vont imprimer un certain nombre de nouvelles thérapies aujourd'hui, avec tous les risques que cela peut comporter. Stanislas Grof distingue dans la psyché trois niveaux, trois plans de l'inconscient. Le premier niveau, le biographique, et l'inconscient individuel, découvert par Freud. Le deuxième niveau, le domaine périnatal, découvert par Otto Rank en 1924, rattaché aux expériences de naissance et de mort. Enfin, le troisième niveau, transpersonnel, le domaine transpersonnel, qui concerne les états non ordinaires de conscience et l'inconscient collectif, que l'on peut aussi, dont on a dit un mot tout à l'heure, découvert par Jung avec sa notion d'archétype. Ces deux derniers domaines forment le transbiographique. Et je cite donc Stanislas Grof, à la page 40 de son livre sur la psychologie transpersonnelle, « Un autre groupe important d'expériences transpersonnelles fait intervenir la télépathie, le diagnostic psychique, la clairvoyance, la clairaudience, la prémonition, la psychométrie, les expériences hors du corps, les voyages dans l'espace et d'autres phénomènes paranormaux. Certains se caractérisent par la transcendance des limites temporelles ordinaires, d'autres par la transcendance des barrières spatiales, ou encore par la combinaison des deux. Nous sommes effectivement là, en pleine médiumnité, que l'Église, en sa sagesse, à la suite des Écritures saintes, a toujours condamnée. Cependant, il est curieux de constater que ces approches psychologiques s'intéressant à la période prénatale et postnatale sont la plupart du temps utilisées par des thérapeutes sans compétences réelles à la recherche d'une clientèle facile ayant des moyens financiers. D'abord aux États-Unis puis en Europe occidentale, ces approches ont entraîné nombre de dérives. C'est ainsi que de nombreuses thérapies nouvelles souscrivent à ces approches mêlant magnétisme ou médiumnité à la recherche du traumatisme ou de la blessure initiale. Cette prolifération de nouvelles thérapies sans contrôle ont engendré notamment ce que l'on appelle des faux souvenirs induits, remarquablement décrits par Elisabeth Loftus dans son livre « Le syndrome des faux souvenirs » ayant pour sous-titre « Ces psys qui manipulent la mémoire ». La kinésiologie, la psychophanie, la sophrologie, l'hypnose, une certaine ostéopathie dite fluidique, quand il y a recherche d'un traumatisme ou d'une blessure passée, peuvent s'inscrire dans ces courants. Pascalide et ses ressources pour guérir. Pascalide, docteur en médecine, en philosophie et en théologie, membre de la communauté de l'Emmanuel, dans une approche purement livresque, sans grand discernement, décrit quelques-unes de ses méthodes dans son livre « Des ressources pour guérir ». En lisant ce livre, il est aisé de reconnaître que son auteur n'a aucune distanciation critique dans sa compilation d'études de livres sur l'hypnose ericksonienne, le MDR, la cohérence cardiaque, EFT, etc. Avec leurs cas de guérison, tous plus merveilleux les uns que les autres. On aimerait que le docteur en médecine qu'est Pascalide se rappelle des grandes exigences de l'observation clinique et de la distanciation que tout scientifique doit opérer dans l'examen des faits qu'il observe. que le progrès objectif de la médecine moderne a substantiellement avancé grâce à des méthodologies rigoureuses que l'on ne retrouve absolument pas dans ces méthodes-là. Et pour cause, elles ne reposent pas sur une approche rationnelle des faits. Id se contente de relater ce qu'il lit dans ses livres tout à la gloire de nouvelles méthodes miracles. Les attestations scientifiques validées de ces méthodes ne sont pas produites dans son livre et pour cause, elles n'existent pas dans la littérature scientifique médicale reconnue par la profession. Il s'agit d'études parallèles dont les protocoles n'ont pas l'exigence requise par la recherche médicale. Dans certaines de ces thérapies permettant de réactiver la mémoire de l'enfance, il y a grand danger, car la mémoire est labile et peut être reconstruite. Ainsi, des éléments totalement inventés ou suggérés peuvent prendre la place de la réalité des faits. Id semble méconnaître la réalité de ces dangers décrits par Elisabeth Loftus dans son livre « Les faux souvenirs induits », bien qu'il la cite. Faux souvenirs spécialement induits par certaines thérapies dont Id fait l'éloge, en particulier la PNL. Les sensations, le quadruplé sensoriel que la programmation neurolinguistique appelle VACO, VACO comme V visuel, A auditif, K kinesthésique et O olfactif gustative. Et les émotions affleurent comme si cela se passait maintenant. On fait à travers ces méthodes de programmation neurolinguistique émerger des émotions comme si on les actualisait, si vous voulez. Or, ce vécu intense est une remémoration vivide par laquelle je me représente le passé, mais que mes besoins d'aujourd'hui et toute mon histoire influencent et remodèlent. Voir. Plus les souvenirs retrouvés sont chargés émotionnellement, plus ils drainent mon histoire et mon état actuel. Donc plus ils sont élaborés de manière inconsciente. Ces souvenirs sont donc toujours de vrais faux souvenirs, c'est-à-dire des mémoires mélangeant données et constructions, mais si cette indémêlable intrication interdit de leur accorder une valeur factuelle, ils sont d'une grande valeur psychologique et psychothérapeutique, nous dit Id, à la page 118 de son livre « Des ressources pour guérir ». Après une période euphorique, due au miracle opéré par ces thérapies, l'heure est aujourd'hui au réalisme et à la tentative de réparation des dégâts opérés dans le remaniement de la mémoire ou de la personnalité, dégâts parfois irréversibles provoqués par ce type de pseudo-thérapie. Id est-il naïf ou inconscient quand il prétend, nous l'avions observé pour l'énéagramme, qui est aussi une méthode tout à fait subjective et ne reposant sur aucune validité scientifique ou psychologique ayant été expérimentée et de manière rigoureuse avec des protocoles rigoureux. Nous l'avions observé, dit Id, pour l'énéagramme, la suspicion est proportionnelle à la crainte et celle-ci à la puissance d'analyse de la grille qu'en retour elle atteste. De fait, un hypnotiseur peut utiliser la méthode pour manipuler et servir ses propres intérêts. Mais cela est vrai pour tout thérapeute compétent et toute thérapie efficace. Rappelons seulement que celui-là doit avoir bénéficié d'une formation diplômante et que celle-ci doit s'exercer selon une déontologie rigoureuse, le tout dans un cadre européen de plus en plus strict. Fin de la citation de Pascalide à la page 122 de son livre, déjà cité. Id ignore-t-il que la plupart des formateurs en énéagramme, PNL, sophrologie, hypnose n'ont pas d'autre diplôme que ceux délivrés par des écoles privées, que la plupart de ces praticiens contournent les normes nationales ou européennes en vigueur en changeant la présentation de ce qu'ils font pour ne pas être pénalement répréhensibles. Sa citation d'Aristote, notant que l'on peut mésuser de tout, est une pirouette qui devient, après cette expertise si légère, particulièrement déplacée. Id révèle une confidence d'une personne qu'une personne lui a faite. C'est à la page 124 de son livre « Des ressources pour guérir, comprendre et évaluer quelques nouvelles thérapies, hypnose ericksonienne, EMDR, cohérence cardiaque, EFT, TIPI, CNV et Kaizen ». Donc voilà ce que dit Id. Depuis que j'ai découvert l'auto-hypnose, citant donc une personne qui lui a fait cette confidence, depuis que j'ai découvert l'auto-hypnose, ma prière a changé. Chaque matin, je prends un quart d'heure de méditation en cet état. Je trouve ce mouvement très bienfaisant. La paix n'est-elle pas le fruit de l'esprit ? Il ne semble avoir aucune objection à faire. La prière n'est pas une rencontre avec soi-même, dans une recherche de confort ou de paix, mais un désir de rencontrer le tout autre révélé en Jésus-Christ. L'exercice d'auto-hypnose procurant un effet bienfaisant d'une paix toute subjective nous étanchéifie d'une vraie relation à Dieu. L'objectif de la prière étant de rendre gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et non pas notre bien-être personnel et immédiat. Il est dans le don de soi pour un plus grand bonheur et non dans la consommation d'un fruit qui paraît savoureux. Vu la notoriété de Pascalide que Pascalide entretient dans les milieux chrétiens, nous aurions aimé plus de réserve, de prudence et de discernement. Dérives dans l'Église catholique. Ces dérives sont à déplorer jusqu'au sein de retraites dans l'Église catholique. Agapé, session Henri Lemay, week-end organisé par les époux Fourchaud, mais également dans les sessions Énéagramme à la recherche des blessures de l'enfance qui entacheraient notre liberté psychologique et spirituelle. Ce sont les Canadiens qui ont commencé ces retraites, notamment à Kakuna. Voici un article paru très récemment sur aletheia.org. C'est le dernier chapitre de paragraphe de cette interview de la fondatrice de Kakuna, sœur Yolande Bouchard. Et le titre de cet article s'appelle « Les guérisons physiques ou psychiatriques ». Et je cite sœur Yolande Bouchard. « Quand une guérison s'opère, ceux qui ont un charisme de connaissance ou de science, même s'ils ne connaissent pas la personne et ne savent pas sa pathologie, commencent à prier et vont tout de suite sentir qu'il y a un mal dans telle région du corps qu'ils demandent au Seigneur de guérir. C'est à ce moment-là que Dieu envoie des signes de guérison à celui qui a ce charisme, afin qu'il l'exprime à haute voix en disant par exemple « Merci Seigneur de visiter un estomac et un cerveau gauche ». Pour un cancer de l'estomac, sœur Yolande raconte qu'elle ressent le malaise qui est dans la personne malade et peu à peu avec la prière, la partie endommagée diminue jusqu'à disparaître totalement. Ou pour une scoliose, sœur Yolande va la sentir dans son corps comme si on déplaçait sa colonne, alors que la sienne va très bien. Puis, tout à coup, elle sent que tout se redresse et que c'est guéri. Le priant qui exerce un charisme sans l'action du Seigneur dans la personne qui est visitée en train d'être guérie. Mais il est toujours expressément demandé aux participants de ne jamais cesser une médication en cas de guérison. S'ils ont un traitement, il faut qu'il soit contrôlé par le médecin. L'usage de la raison ici, et c'est moi qui cite, passe à la trappe. Ce dernier chapitre est une illustration fidèle d'une séance de médiumnité. On peut vraiment avoir exactement ce même type de témoignage de médiums qui vont ressentir l'endroit pathologique d'une personne qui vient les consulter, hein, à l'intérieur même de leur propre corps. Où est la distanciation entre vraiment quelque chose qui vient de l'Esprit-Saint et quelque chose qui est de l'ordre de la médiumnité et d'une certaine manière automatique? Ce dossier est loin d'être terminé. La psychologie transpersonnelle n'a aucune rigueur épistémologique. La multiplicité des définitions dans des champs et des catégories sans limite conduit à une confusion conceptuelle fourre-tout. De plus, les définitions varient d'un auteur à l'autre, ajoutant à ce tohu-bohu de la pensée. La psychologie transpersonnelle n'est encadrée par aucune autorité en France ou à l'échelle européenne et n'importe qui peut se proclamer thérapeute sans la moindre formation. Cela n'empêche pas que certains instituts privés proposent des formations dont le diplôme n'a aucune valeur institutionnelle. Ces psychologies transpersonnelles s'immiscent dans tous les domaines. Elles pénètrent les méthodes de coaching personnel ou de management des entreprises. Mais sournoisement, dans l'Église catholique, l'accompagnement spirituel s'en trouve parfois imprégné. Il est à déplorer qu'il n'y ait à ce jour que très peu de critiques ou de travail de discernement approfondi, réel, autour de ces nouvelles thérapies. Nouvelles thérapies qui ne sont pas si nouvelles que cela, car elles reposent sur des données que l'Église, dans sa sagesse, a déjà connues, explorer et discerner dans la vie et les écrits de ces saints et de ces docteurs qui ont eu une réelle expérience spirituelle de Dieu et du réel de la création. De tout temps, l'Église a combattu toutes les gnoses, c'est-à-dire ces connaissances nées d'initiation et non d'un savoir rationnel et de l'intelligence de la foi. Lisons saint Jean de la Croix au chapitre 21 de la montée au Carmel. Je cite. Des spirituels qui approuvent la curiosité dont usent quelques personnes en cherchant à connaître certaines choses par voie surnaturelle, ces personnes s'imaginent que Dieu répondant quelquefois à leur interrogation, c'est une indication que cette manière de faire est bonne et qu'elle plaît à Dieu. La vérité est que bien que Dieu réponde, le procédé est répréhensible et ne lui plaît pas. Il lui déplaît même, et encore, ce n'est pas assez de le dire. Souvent Dieu s'en irrite et s'en tient offensé. En voici la raison. Il n'est licite à aucune créature de sortir des bornes naturelles que Dieu lui a tracées pour se conduire. À l'homme, il a donné des limites naturelles et raisonnables pour la conduite de sa vie. Il ne lui est donc pas licite de chercher à les franchir. Or, s'efforcer de savoir et de connaître par voie surnaturelle, c'est sortir des limites naturelles. C'est donc chose illicite, et cela déplaît à Dieu, car tout ce qui est illicite l'offense. Donc, c'est dans saint Jean de la Croix, ses œuvres complètes. Donc, c'est une citation donc tirée de la montée au Carmel. L'enseignement de l'Église ne cesse de nous dire que les deux ailes de notre intelligence du réel sont la foi et la raison. Fides et ratio. Et je cite donc l'encyclique de Jean-Paul II du 14 septembre 1998, et c'en est l'entête. Fides et ratio, la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité.